Chapitre 28. Mise en terre. Les rafales de pluie faisaient claquer les 9 linceuls sur les 9 corps qui semblaient transportés par la foule elle-même. À Eleanor avait fait grincer les dents du drapier en réquisitionnant 9 pans des plus belles étoffes dont le chatoiement mouillé faisait autour des corps comme une enveloppe de lumière. Les 9 visages peints étaient désormais identiques, presque indiscernables. Le noir et le blanc pour l'équilibre qu'ils avaient apporté au monde, pour le mal et pour le bien, pour la souffrance et le bonheur, pour l'animal et pour le dieu qui faisait l'homme. L'or pour leur regard éteint et pour leurs paroles réduites au silence, l'or en souvenir du regard et de la voix qui les avait rendus précieux. 9 courages fauchés, 9 mémoires ensevelies, 9 talents qui ne serviraient plus. Keller frissonna en suivant la tête du cortège, hébété, incrédule, plein d'une détermination sourde et aveugle. Une foule silencieuse suivait. À Eleanor s'appuyait plus lourdement que de coutume sur le bras de Keller, le visage impassible, presque aussi figé que les maquillages mortuaires. Elle était la seule, désormais, à arborer le « A » sur sa joue. Tous les apostats qui s'étaient joints à eux l'avaient ce matin payé de leur vie. C'était un sombre jour, souligné par une sombre lumière et une pluie cinglante qui noyait les larmes. Le chemin était long jusqu'au cimetière de la ville basse, un lieu dont l'austère laideur pétrifia Eleanor, habituée à la splendeur des mausolées, à toute la pompe qui entourait la mort, et la rendait sinon plus supportable, du moins plus belle. La beauté, songea-t-elle, est l'un des derniers recours de la souffrance, et ce peuple en est privé. Keller s'attendait à quelque chose, sans être capable de savoir quoi. Il redoutait un guet-apens, une attaque subite de la foule endeuillée. Mais il le savait, les bas citoyens étaient moins vulnérables dans le malheur, et tiraient leur force de leur désespoir. Ils étaient plus que jamais prêts au combat. Qu'Ethel lui avait dit quelques jours auparavant que la rage qu'il avait soutenue se ranimerait le moment venu, sans savoir qu'il serait celui qui la ranimerait. Il aurait aimé que tout se terminât dès ce soir. Il savait qu'il n'aurait plus de sommeil avant d'avoir vaincu ou d'être mort. Il lui fallait remplacer au plus vite ses précieux lieutenants. Il lui fallait reformer un état-major digne de confiance et précipiter la date. Il ne pouvait pas échouer après avoir payé ce prix. Il avait tant perdu de temps à retrouver son père, lorsque son seul père était là, près de lui. En voyant à Eleanor soutenir son ventre de sa main gauche, il songea que jamais leur enfant ne sauterait sur ses genoux, et étouffa un sanglot qui le surprit lui-même. La pluie qui redoublait avait transformé la fosse commune en une énorme bouche de boue. À Eleanor détourna les yeux lorsque les corps furent recouverts de chaux et jetés au fond comme des carcasses d'animaux. Les fossoyeurs redoublèrent d'efforts sous la pluie, projetant des giclées à plusieurs mètres à la ronde, puis la foule commença à se disperser, et il ne resta du vieillard gourmand et espiègle, de son intelligence et de sa délicatesse, qu'un souvenir. À Eleanor paraissait écrasée par le poids qu'elle portait, et ne lâcha pas Keller sur le chemin du retour. Ils avaient convenu qu'ils passeraient la journée ensemble, que les hommes que Keller avait choisis les rejoindraient à la frontière pour assurer la relève. Un sentiment d'urgence le guidait, le rendant presque insensible à tout le reste. Quelques heures plus tard, ils étaient 8 à l'étage de la frontière. À Eleanor, plus silencieuse que d'habitude, Keller, et 6 hommes parmi les plus loyaux et les plus capables d'initiative. Tous avaient pleuré la mort des apostats, bien qu'ils ne fissent pas partie des leurs, et aucun ne se réjouissait de prendre leur place. 2 d'entre eux avaient à peine plus de 20 ans, les 4 autres un peu plus âgés, chacun ayant prouvé lors des entraînements une valeur particulière. Keller attendit que tous fussent installés avant de prendre la parole à voix basse, comme si la clandestinité de leur entreprise avait soudain pris une dimension plus tragique. « Nous ne savons pas à l'heure qu'il est qui a commandité ces assassinats. Nous supposons qu'ils ont été perpétrés par les membres de la Guilde de l'Ombre, une guilde d'assassins extrêmement dangereux. Nous ne savons pas pour quelles raisons à Eleanor et moi-même avons été épargnés. Mais nous supposons qu'il s'agissait d'une initiative privée et non d'un ordre émanant du gouvernement de la cité. » Il est probable que nos communications avec l'intérieur soient totalement coupées, probable à vrai dire que nos alliés subissent le même sort que nos amis. Dans ces conditions, il n'y a que 2 solutions, ou bien nous laissons tout tomber, ou bien nous contre-attaquons, le plus vite possible. Les hommes acquiescèrent silencieusement. Nous avons calculé qu'il nous fallait un peu plus de 48 heures pour mettre au point les derniers préparatifs. Il faut donc tenir jusque-là. Nous garderons l'idée d'une attaque de nuit, en priant pour qu'une partie de la branche active soit encore sur pied et pour que les papillons suffisent à neutraliser les dirigeants. Dans le cas contraire, il faudra les supprimer le plus rapidement possible. Il me faut un volontaire pour cette mission prioritaire. Accéder à la guilde du pouvoir, retrouver les membres éventuels de la branche active Éliminer les dirigeants si la situation l'exige. Nous ne pouvons pas nous permettre de subir leurs contraintes. » Un des plus jeunes gens, dénommé Fly, prit la parole. « Je suis d'accord, dit-il, mais cette mission a l'air primordiale. Où serez-vous, maître Keller ?»« J'ai longuement hésité, répondit Keller. Je resterai avec mon escouade sur le trajet, j'assurerai vos arrières et je m'assurerai que les résistances sont contenues. Il y aura probablement des combats toute la nuit et je ne peux pas laisser mes hommes. » Fly acquiesça. « Cette mission exige un sens aigu de l'initiative, remarqua Keller d'un ton neutre. Il faudra prendre des décisions difficiles dans l'urgence. » « Je sais, dit Fly simplement. Je ne me laisserai pas fléchir, ni dans un sens ni dans l'autre. Je ferai ce qui me paraîtra juste. » Keller soupira. Une autre escouade doit s'occuper de protéger les femmes qui lâcheront les papillons. Bien qu'il soit prévu qu'elles suivent les combats de loin, tout est possible à n'importe quel moment, y compris à l'intérieur de leur rang. À Eleanor trouva la force de sourire ironiquement. « Elles ne vous lâcheront pas plus que les hommes, dit-elle farouchement, ni plus ni moins. » Keller lui sourit d'un sourire pâle. Un des hommes plus âgés se porta volontaire. « Ma femme et mes filles feront partie de la mêlée, dit-il. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais m'occuper de cette mission. » « Bien, dit Keller. Il nous faut une unité à l'arrière, afin de mettre en place, de consolider le pont flottant, de protéger la voie de retraite et de maintenir l'ordre dans la zone de passage. Et une autre en éclaireur, devant l'escouade de Fly. Aussitôt arrivé à proximité de la guilde du pouvoir, il faudra sécuriser les accès, établir un périmètre et ne rien lâcher. » Le plus âgé des hommes se porta volontaire pour commander les éclaireurs. Keller, qui se souvenait de lui de l'entraînement, approuva son choix. L'un des autres préféra rester en arrière pour couvrir la retraite qu'il paraissait juger probable. « Les deux autres unités seront avec la mienne. Vous ne serez pas directement sous mes ordres, car les combats risquent de nous éparpiller. Mais notre rôle sera le même. Nous serons le gros de la troupe, sur lesquels se concentreront toutes les contre-attaques. Nous essuierons sans doute les résistances les plus organisées, les assauts des guildes exécutives, et nous serons aussi ceux qui combattront le plus longtemps. Il nous faut de l'endurance, de la détermination, des hommes qui résistent au verbe, aussi bien qu'à la violence. « Ça me va, » dit l'un des plus jeunes. « Je préfère être sous votre aile. »« Ça me va aussi, » reprit le dernier. « J'ai pas beaucoup de cervelle, mais je suis un dur à cuire et je sais parler aux hommes. » Keller sourit. L'attaque est prévue après-demain soir. Entre-temps, quelques heures d'entraînement par jour, des séances régulières de résistance au verbe et beaucoup de repos. Mangez bien, dormez autant que vous pouvez, vous devez être au mieux de votre forme. À Eleanor attira leur attention et s'efforça de s'adresser autant aux hommes qu'à Keller. Il est une autre question que nous devons trancher. Il est probable que le gouvernement et l'ensemble des hauts citoyens se poseront des questions sur ces assassinats. Ils envisageront toutes les possibilités. Et je doute que les commanditaires se fassent connaître, s'ils ont, comme je le crois, agi dans l'ombre. Cela nous laisse deux options. Soit nous passons ces 48 heures dans la continuité de ce que nous faisions avant, soit nous profitons de ces événements pour semer un désordre encore plus grand. Les hommes étaient sensibles au fait qu'on s'adresse à eux, non seulement pour leur donner des consignes, mais également pour établir une stratégie. Keller le remarqua et se félicita de l'initiative d'Eleanor. Ces hommes allaient risquer leur peau, et ils devaient se sentir totalement responsables. Qu'entendez-vous par un désordre encore plus grand ? Demanda Fly, prompt à entrer dans le jeu. Une grève générale dans les guildes, par exemple, suggéra Eleanor. Ne risque-t-il pas de se préparer davantage à une attaque ? Objecta Beffroi, l'homme qui avait accepté la mission d'éclaireur. C'est un risque à prendre, admit à Eleanor, mais une grève, assortie de revendications, pourrait les pousser à délibérer sur d'éventuelles négociations et les détourner de notre réel objectif. Les guildes du commerce prendront tout de suite la menace au sérieux et feront tout pour conserver leur rendement. Ils ne s'attendront pas à une révolution dans les 48 heures. Keller frémit en entendant prononcer pour la première fois le terme de révolution. Il ne savait plus que penser, et la vie de Kettel lui manquait, mais il faisait confiance à Eleanor. Elle était celle qui connaissait le mieux les attitudes de la haute ville, elle était même la seule, à présent. Le débat qui s'ensuivit ne fut pas long. Ils décidèrent d'organiser la grève pour l'aube suivante. L'ensemble des bas citoyens, de la vie générale, devaient suivre le mouvement sans savoir qu'il s'agissait d'une diversion. Seuls les membres de l'armée du soulèvement et les personnes qui suivaient l'enseignement régulier d'Eleanor seraient mis dans la confidence. À Eleanor, malgré la fatigue qui se lisait sur ses traits, voulait s'adresser aux six hommes par le verbe avant de les quitter. Ils ne s'y refusèrent pas, bien que leur réticence à ouvrir leur esprit à ce qu'ils considéraient toujours comme une magie de domination fut tangible. Cavalier de la Révolution, dit-elle doucement, l'avenir entre vos mains est brillant et tranchant comme une lame. Ne le laissez pas s'échapper, et abattez-le de toutes vos forces sur les injustices de votre enfance. Sachez que des enfants libres naîtront des ruines fumantes. Soyez fidèles à votre œuvre, car votre pouvoir ne pliera devant aucun autre. Les paroles d'humiliation ne sont que mensonges, que votre cœur n'entendra pas. Les paroles de découragement ne sont que poison que votre corps rejettera. Aucune contrainte ne vous sera jamais faite, car vous êtes plus libre que ceux qui veulent vous contraindre. Allez, car votre chemin est tracé du sang de la lumière. Chapitre 29. Dernier contact. Stelle avait fini par s'habituer au léger picotement mental qui annonçait les contacts d'Elénore. Ce n'était pas désagréable, bien qu'un peu intrusif. Cela tirait de son esprit de la torpeur dans laquelle il végétait la plupart du temps. Saoulé de beauté et de narcotiques, d'alcool et de rêves, au bord du délire, il fuyait la réalité désormais. Son ennui s'était enflé comme un cancer invisible, rongeant de l'intérieur la totalité de ses centres d'intérêt. Cela avait commencé avant le départ d'Elénore, cela s'était aggravé avec le sentiment d'absurde qu'il habitait lorsqu'il se prêtait aux caprices de cette révolution à laquelle il n'avait jamais cru. Transmettre des messages, participer à des débats oiseux, faire semblant d'éprouver autre chose que cet ennui souverain. Seule la beauté le distrayait de cette chape de cendre. Même sa chair était lasse et ne l'enivrait plus. Le picotement se faisait plus fort. Elénore devait se concentrer très fort pour parvenir à ce résultat. Il hésita à ouvrir son esprit. N'allait-elle pas encore lui demander quelques services dénués de sens? Ne serait-il pas frustrant de l'entrevoir et de ne pouvoir rien partager avec elle? Par lassitude plus qu'autre chose, par paresse devant la résistance qu'il aurait dû opposer à la volonté d'Elénore, il ouvrit son esprit. Des images confuses l'envahirent presque immédiatement. Le corps d'un apostat, un vieillard qui lui était vaguement familier et dont le cadavre semblait chargé pour Elénore d'une forte émotion. Le balancement d'une poignée de corps maquillés à la façon de la haute ville, portés par des bas citoyens sous une pluie noirâtre. Un chiffre qu'il discernait avec peine et une position de la lune. Une date. Les images d'Elénore se faisaient plus rapides, se répétaient parfois, comme si elles cédaient à une sorte de panique ou d'urgence. Aumont, Emmerich, Mével. Une silhouette sombre, une pierre frontale violette et triangulaire, des cicatrices. Aumont. Le cadavre de l'apostat, le cadavre de tous les apostats. La date pressante qui revenait comme un refrain lancinant. La cadence des images lui donnait mal à la tête, et lorsqu'il fut certain que les images tournaient en rond, il ferma son esprit. Il soupira avant de se saisir de son vélin et de ses encres. Il dessina, autant pour s'amuser que par souci de discrétion, le visage de l'apostat maquillé de blanc et de noir. Il traça la position de la lune et le chiffre, puis il caricatura les visages d'Emmerich et de Mével. La sombre silhouette lui rappelait la guilde de l'ombre, et il s'efforça de la restituer dans tout son aspect effrayant. Il était étrange, d'ailleurs, qu'Elénore pût former une image mentale si précise d'un frère sombre. Il ne se rappelait pas qu'elle en eût jamais rencontré. Satisfait de son petit chef-d'œuvre, il décida de profiter de la soirée pour la remettre lui-même à la demeure d'Aumont. Sa promenade fut langoureuse et lente, ses yeux écarquillés par les drogues s'appesantissaient sur chaque détail, et il trouvait un relief particulier à l'immobilité des statues que noircissait le coucher imminent du soleil. Il jeta distraitement le rouleau dans le réceptacle de la demeure d'Aumont et prit soin de continuer sa promenade jusqu'à ce que la fatigue, l'endolorissement des membres et de la vue le ramenassent chez lui. Il ôta sa chemise de soie et s'installa dans son fumoir où le long narguilé de nacre attendait pour lui instiller la consolation et l'oubli. À travers les fumées irisées, dans la pénombre, il vit la silhouette prendre forme, la même que celle qu'il venait de dessiner, celle-là même qu'Elénore lui avait envoyée en esprit. Un magnifique, un parfait ange de la mort. La précision de ses traits fit un instant douter Stelle de son irréalité. Ses visions étaient d'ordinaire plus floues et plus évanescentes. Celle-ci atteignait une sorte de perfection. Il tira une nouvelle longue bouffée d'opium et regarda fasciné la pierre frontale s'allumer et répandre une lumière violette à travers les volutes de fumée. « Un tel réalisme !» murmura-t-il. Puis ce fut à peine s'il sentit la brève et violente étreinte de son esprit, comme un baiser glacé et mortel dont ses sens abusés n'eurent pas le temps de se rendre compte. Son dernier soupir fut mélangé à la fumée de l'opium qui continua longtemps d'enrouler ses volutes autour de la forme vide du maître Sornard. Chapitre 30. Tempête au forum. Aumont le sentait, tout avait déjà basculé. Il en éprouvait une excitation mêlée d'effroi, comme à chaque fois que l'esprit découvre que l'idée qu'il a engendrée soudain s'est actualisée en mille ramifications imprévues, en mille chemins qui vous échappent et qui partent dans des directions multiples. La statue avait tressailli sur son socle, et le forum aujourd'hui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu depuis l'enfance. La foule qui y assistait était démesurément nombreuse et agitée. Les plaidants, lorsque leurs verbes ne captaient pas assez l'attention, n'étaient pas même écoutés par politesse, et des gens de l'assistance se permettaient de lancer des contre-arguments pendant la plaidoirie. Même les visages d'ordinaire si sereins s'animaient aujourd'hui d'une multitude d'expressions oubliées. La peur, l'incompréhension, la rage étaient parmi elles. Tous ces hauts citoyens avaient perdu leur flegme et leur ironie. Ils paraissaient enfin avoir fait exploser le carcan de leur code, et Aumont regardait halluciné ce spectacle étrange. Et tout ceci à cause d'une grève. Le plaidant qui était en ce moment à la tribune usait sans réserve de son verbe puissant et réussit à calmer la foule un bref moment. Aumont n'avait pas pu entendre la présentation de son argument, mais il était assez clair. « N'ajoutons pas le trouble au trouble, et ne devenons pas aussi imprévisibles que la bête qui nous attaque. L'histoire de notre cité ne peut être indéfiniment linéaire, et nous devons user de ce qui fait notre identité pour surmonter cet accident. La menace qui pèse aujourd'hui sur notre équilibre est d'une nature que nous connaissons bien, que nous pratiquons quotidiennement. Elle est de nature politique, et seule la politique, dans toute sa vertu, peut endiguer la vague et la faire refluer. Vous proposez, chers concitoyens, d'utiliser la force. Je propose, moi, d'utiliser la négociation, qui seule désarmera la ville basse de la rage qui la hante. Les bas citoyens sont notre force de travail, et l'on ne détruit pas un outil qui a besoin d'être réparé. On le répare, avec patience, afin qu'il nous serve plus loyalement. Les bas citoyens sont usés par les cadences que nous leur imposons. Ils revendiquent probablement des choses insignifiantes qu'il nous est loisible de leur donner sans nous départir de notre dignité, de nos intérêts et de nos projets. Savoir ce qu'ils veulent est notre priorité, et veiller à le leur donner, notre seconde, car notre but, en les asservissant, n'est pas de les asservir, mais de construire. Flattons leur orgueil, rendons leur rage sans objet, parce qu'un cheval blessé est plus rétif qu'un cheval bien soigné, et que dans notre soif de construire toujours plus, nous avons peut-être oublié de ménager notre monture. Achetons la paix, chers concitoyens, plutôt que de payer le prix de la guerre, car le prix de la guerre se paye toujours dans l'amertume et dans le sang. » Une double vague de récriminations et d'ovations couvrit le bruit des sifflets. L'homme, un certain Catus de la Guilde du Savoir, alla se rasseoir lentement sans y prêter attention. Les plaidants se battaient pour monter à la tribune, et les officiers des guildes du pouvoir avaient grand mal à les canaliser. La plaidante suivante étincelait de colère avant même d'avoir allumé sa pierre frontale. Elle faisait partie de la guilde du commerce, première atteinte par le mouvement de grève. « Votre argument ? Il faut faire de cette grève un exemple pour éviter à l'avenir tout autre mouvement du même type. » Plaider. Imaginez un monde où la ville basse, au moindre caprice des ouvriers, paralyse nos activités. Imaginez un avenir où nulle décision, nul changement, nul échange ne pourra être planifié sans avoir d'abord reçu l'aval d'en bas. Je dis, en vérité, que notre monde repose sur la domination et qu'aucune hypocrisie ne doit masquer ce fait. Les bas citoyens doivent obéir, ou notre civilisation même est perdue. Vous proposez, Catus, de donner libéralement ce qu'ils veulent aux bas citoyens. Peut-être avez-vous raison pour aujourd'hui, mais c'est demain qui vous donne tort, car leurs exigences croîtront et se multiplieront comme des vampires et ne cesseront que lorsque nous aurons finalement utilisé la force. Utilisez la politique, dites-vous. La politique, c'est aussi le courage de refuser fermement des termes inacceptables. C'est aussi de refuser le chantage des ignorants et des barbares et d'assurer la pérennité de notre civilisation. La boîte que vous proposez d'ouvrir, Catus, est emplie de soucis, de pertes, de problèmes. Elle contient un bras de fer permanent. Et je vous propose, chers concitoyens, de la laisser fermer pour toujours. » Aumont cessa un instant d'écouter les plaidants, qui ressassaient les mêmes refrains depuis déjà plusieurs heures. La haute ville détestait la violence, et le miroir que lui tendait agressivement la ville basse lui renvoyait une image honnie, celle d'une cité qui opprimait et exploitait, qui maniait le fer. Si grand que fût le mépris qu'ils éprouvaient tous pour les bas citoyens, quelque chose dans cette image troublait leur conscience, et toute une partie d'entre eux cédait à un sentiment de culpabilité. Pas assez pour rejoindre ses rangs, songea Aumont, mais assez pour s'opposer à une répression sanglante que seules les guildes des industries et du commerce prônaient ouvertement. Aumont n'avait jamais mesuré auparavant les profondes mentalités ancrées dans chaque guilde. Elles avaient chacune une valeur suprême, et ces valeurs variaient. La guilde du commerce avait pour valeur suprême le profit, et les dimensions humaines qui accompagnaient la production n'étaient que des paramètres à calibrer. La guilde du savoir se retranchait volontiers dans une tour d'ivoire. La guilde du pouvoir était obsédée par le fonctionnement démocratique de la cité. La guilde de l'ordre ne protégeait que l'ordre établi, sans chercher à en comprendre quoi que ce soit. Et toutes ces guildes, par membres interposés, s'affrontaient en ce moment. chacune luttant pour son territoire, chacune représentant à sa manière l'une des pulsions de la haute ville, la guilde du pouvoir sanctionnant et choisissant, à l'instar d'une personnalité confrontée à des désirs contraires. C'était une mécanique fascinante. Aumont balayait l'assemblée du regard, à la recherche de visages connus, lorsqu'il tomba par hasard sur celui d'Emeric. Il ne lui adressa pas de signe de connivence, mais l'observa pendant un moment. Emeric l'attentiste, le prudent, l'immobile. Aumont se demandait ce qu'il pouvait bien penser de tout cela. Il laissait errer ses réflexions sur ce sujet lorsqu'il remarqua une toge noire dans la foule, derrière Emeric. Les frères sombres se rendaient rarement au forum, et en tout cas ne participaient jamais au débat. Mais l'agitation ambiante était telle que sa silhouette si rare en public passa quasiment inaperçue. Aumont ne pouvait discerner son visage, car son capuchon était rabattu. Il se rendit compte cependant, en l'observant une minute, qu'il ne prêtait aucune attention au forum et qu'il se rendait à un endroit précis. Son attention piquée, Aumont ne le quitta plus des yeux et réprima un hurlement lorsqu'il se rendit compte que le frère sombre se dirigeait inéluctablement vers Emeric. Son vieil ami et interlocuteur était debout, impassible, plongé dans le débat, et aucun de ses sens ne l'avertissait du danger. Aumont était beaucoup trop loin pour agir et ne put que regarder hypnotisé l'inexorable scène. Le frère sombre s'arrêta juste derrière le médecin, et tandis qu'il lui prenait le bras, Aumont discerna une sinistre lumière violette qui filtrait du capuchon. Puis il disparut littéralement dans la foule, tandis qu'Emeric, saisi de malaise, essayait de s'accrocher au gradin devant lui. Ses voisins directs lui apportèrent de l'aide, manifestement dérangés, mais Emeric s'affaissa bientôt. Aumont sentit son cœur accélérer son rythme et n'entendit tout à coup plus rien que ses propres pensées. Le frère sombre avait disparu, pouvait être derrière lui. Il devait fuir. Après un instant figé, il se hâta de ramasser ses affaires et de s'excuser auprès de ses voisins. Il sortit du forum aussi vite que le lui permettait la foule qui entravait son chemin. Une fois dehors, il pressa le pas vers une ruelle, puis se ravisa et emprunta les avenues les plus fréquentées pour rentrer chez lui. Sa tête bourdonnait, ses jambes se faisaient molles. Pour la première fois depuis qu'il s'était engagé, il avait peur. Il lui fallut plusieurs minutes de marche pour se ressaisir, durant lesquelles il fit appel à l'esprit pour calmer les battements de son cœur et raffermir ses muscles tétanisés. Il respira profondément et se décida enfin à se retourner. L'avenue semblait sûre, aucune silhouette noire ne paraissait le suivre. Il entra chez lui par la porte de derrière et fit méticuleusement le tour de chacune des pièces avant de s'enfermer à double tour. Et ce fut en verrouillant la porte d'entrée qu'il découvrit le vélin que lui avait apporté Stella.